Dr. Général Sova, bonjour. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez pris place pour la première fois dans le cockpit d'un avion de chasse?
Tak, vojenské stíhačky, to bylo určitě zážitek, protože první, na čem jsem letěla, byla...
Les avions de chasse militaire, c'était vraiment une sacrée expérience. Le premier que j'ai piloté à Pardubice, c'était un L-39C, un albatros d'entraînement. En réalité, ce n'est pas seulement une question de vol en tant que tel, car l'avion est plus ou moins toujours contrôlé de la même manière, mais c'est plutôt une question de vitesse. Nous avons un équipement spécial pour supporter l'altitude avec des pantalons anti-jet. Sur le chasseur L-159, nous portons aussi toujours une veste, un casque, un masque, un appareil respiratoire ou encore des gants. C'est un peu inhabituel au début. J'ai mis 3 ans à m'y habituer, mais ensuite on ne fait plus attention. Il n'y a pas beaucoup d'espace dans le cockpit, mais c'était quelque chose dont j'avais l'habitude en planeur. Donc paradoxalement, j'ai trouvé ça bien plus spacieux. Et puis il y a la vitesse, c'est une expérience formidable pour moi.
Une
combinaison de pilote de chasse, c'est quelque chose de lourd à porter?
La
combinaison de vol n'est pas très lourde en soi, mais le reste de l'équipement de haute altitude pèse son poids. Tout ce qu'on porte, surtout sur la tête, multiplie la surcharge. Il faut donc s'asseoir correctement pour ne pas s'abîmer la colonne vertébrale ou encore un muscle, mais au fur et à mesure que monte la pression, le corps s'y habitue. Avant d'en arriver là où vous êtes, Kateřina Hlavsová, vous avez dû franchir plusieurs étapes. Peut-on revenir sur vos débuts?
To mi bylo tak 16-17 a navštěvovala jsem sportovní gymnázium v Pardubicích.
J'avais 16 ou 17 ans et à l'époque je fréquentais un lycée sportif à Pardubice. Comme je voulais devenir pilote professionnel, j'ai changé d'école car je savais que j'avais besoin de plus de connaissances en mathématiques et en physique pour pouvoir suivre une formation en aéronautique. De plus, tout ce qui touche à l'aviation est en anglais, que ce soit dans le civil ou dans le cadre de l'OTAN. Je savais donc que je devais travailler ces 3 matières qui n'étaient pas mes préférées. J'ai dû me motiver intérieurement pour préparer les examens d'entrée, que ce soit pour une école civile ou pour une école militaire. Et à l'époque, il n'était pas possible pour les femmes de devenir pilote militaire.
Quelqu'un
de votre famille avait-il un brevet de pilotage ou était-ce quelque chose de tout à fait personnel pour vous? Non, personne. Ma mère m'a raconté plus tard que lorsqu'elle avait une quinzaine d'années, une amie l'avait incitée à rejoindre un aéroclub pour faire du planeur, mais qu'elle n'avait pas saisi l'occasion, si bien que j'ai été la toute première de la famille.
Comment
s'est déroulée la suite pour vous? Comment passer de l'envie de voler à l'aspect pratique? Des pilotes professionnels m'ont orienté vers un aéroclub pour voir si j'avais les aptitudes nécessaires déjà. Je voulais commencer par piloter un planeur parce que bien sûr c'est l'activité la plus accessible financièrement dans l'aviation privée. J'ai réalisé qu'il était possible soit de voler en tant que pilote de ligne ou juste pour s'amuser. Mais moi je voulais en faire ma profession. Mais pour cela il faut gagner de l'argent, donc soit trouver un emploi bien rémunéré pour pouvoir payer progressivement sa formation, soit encore travailler comme hôtesse de l'air pour se familiariser avec le vol, pour gagner un peu d'argent pour s'entraîner et progressivement faire des heures de vol afin de devenir pilote professionnel.
Comment
vous vous êtes orienté vers l'armée de l'air? Au début, je n'y pensais même pas, parce que je ne pensais pas que ce serait possible en tant que femme. J'étais simplement attirée par le fait d'être à bord d'un avion et de regarder le monde d'en haut. C'est ce qui m'intéressait le plus quand j'étais enfant. J'allais régulièrement à des journées de démonstration aérienne et un jour, à Hradec Králové, j'ai vu un mirage. J'étais fascinée par cet avion militaire et la puissance de son moteur. J'avais très envie d'essayer. À l'aéroclub, il y avait des étudiants, futurs pilotes de l'armée de l'air et des soldats qui volaient déjà un peu partout dans le pays. Quand je leur ai posé des questions sur le métier et sur les difficultés pour y rentrer, ils m'ont répondu « C'est ouvert aux filles maintenant, mais ce n'est probablement qu'un truc de marketing. Personne ne veut vraiment de filles. » J'étais très déçue, mais mon père m'a dit qu'ils aillent se faire voir. Je me suis donc inscrite aux examens d'entrée à l'Académie militaire de Brno pour devenir pilote d'avion et en même temps à l'Université technique tchèque pour essayer aussi le vol civil.
Et
comment avez-vous été perçue dans votre promotion quasi exclusivement masculine?
No, co se týče spolužáků, nebo i předtím v tom aéroklubu, to, že tam ty holky...
Donc déjà, à l'aéroclub, il n'y avait pas beaucoup de filles, donc ils étaient contents d'avoir une femme. Dans mon domaine, à l'université, j'étais la seule. Mais il y avait des femmes dans les autres domaines militaires avant cela. À l'époque, le nombre de femmes augmentait chaque année. J'avais donc des camarades de classe femmes dans le contrôle du trafic aérien ou dans d'autres spécialités. Et il y avait même des techniciennes. Il y en a probablement plus aujourd'hui, mais dans le fond, je pense qu'il y aura toujours plus d'hommes que de femmes dans l'armée. Ce n'était pas stressant pour moi, parce que j'avais l'expérience de l'aéroclub, et puis ensuite à la base militaire, c'était quelque chose de nouveau, parce qu'il n'y avait pas de femmes en effet dans le groupe des pilotes, que ce soit au centre de formation de pilotage de Pardubice, ou encore à Náměšť nad Oslavou, où j'ai volé sur des Albatros, et ensuite ici, à
Čáslav.
Est-ce que vous avez été confrontée à des situations dangereuses?
Zažila jsem nebo zažíváme takové ty nečekané věci, jo? Že prostě člověk je...
Il y a bien sûr des choses inattendues, mais nous sommes formés à réagir. Nous avons le simulateur pour apprendre à résoudre des problèmes en plein vol, mais chaque fois que quelque chose de ce genre se produit, il s'agit bien sûr d'une situation inattendue pour nous. Toute situation inhabituelle est plus dangereuse que ce à quoi nous sommes formés. Un des problèmes récurrents en Tchéquie et ailleurs, ce sont les collisions avec les oiseaux. Nous volons de plus en plus et j'ai l'impression que le nombre d'oiseaux augmente aussi. Mais ce qui m'effraie le plus ces derniers temps, ce sont les collisions avec des drones. Les moteurs des avions sont construits de telle sorte qu'ils peuvent aspirer les oiseaux, mais les drones, c'est tout autre chose.
Comment réagissent les gens quand vous leur dites que vous êtes pilote dans l'armée de l'air?
Ils sont toujours surpris, mais ce n'est pas spécifique à la Tchéquie. À l'Ouest, il y a plus de femmes pilotes dans ce domaine. Mais malgré tout, dès que vous vous retrouvez dans le cadre d'un exercice international, ou même ici, il y aura toujours des hommes qui vont vous regarder en disant « Tiens, ils ont une fille qui est pilote ». Ce n'est pas encore tout à fait la norme et les femmes restent peu nombreuses.
Avez-vous participé à une mission quelque part à l'étranger?
J'ai passé un peu moins de 4 mois en Afghanistan en 2010. J'y étais en tant que soutien au sol pour une unité d'hélicoptère et c'était une expérience formidable.
Quel conseil pourriez-vous donner aux femmes qui veulent suivre votre exemple et devenir pilote dans l'armée de l'air? Est-ce que c'est difficile?
Déjà, j'ose espérer qu'aujourd'hui, on ne vous regarde plus comme une extraterrestre lorsque vous vous promenez dans un aéroport en combinaison. Bien sûr, il faut que les femmes sachent dans quoi elles se lancent, qu'elles seront toujours dans un collectif plus masculin et qu'il y aura toujours des préjugés. Je pense que si une femme sait ce qu'elle veut et qu'elle sait qu'elle en a les capacités, il faut qu'elle se lance. J'aimerais aussi que les filles qui viendront après moi soient claires avec elles-mêmes. Elles doivent bosser tout autant. Elles ne peuvent pas attendre un traitement de faveur. Je dis ça pour leur propre bien et aussi parce que c'est une condition pour que le collectif les accepte. Quand on décide de se lancer dans le domaine du pilotage ou qu'on veut entrer dans l'armée tout court d'ailleurs, il ne faut pas qu'on voit chez vous que vous attendez un traitement spécial.
Est-ce que c'est un travail difficile? Comment se déroule votre semaine type?
Soit nous sommes à la base pour un entraînement classique, soit nous participons à un autre exercice d'entraînement. Mais la plupart de notre temps, nous le passons ici à la base. Il y a des semaines où il y a généralement un vol 3 ou 4 jours par semaine, ou bien où nous avons 1 ou 2 vols par jour en fonction des tâches que nous devons accomplir ou de l'entraînement à suivre. Avec les L-159, les week-ends sont généralement libres, de sorte que l'on a une semaine assez classique, un peu comme tout le monde. Mais quand il y a des formations, nous pouvons aussi travailler du matin au soir sans interruption pendant un certain temps et ce pendant 2 ou 3 semaines, mais c'est également tout à fait gérable.
Mais cela prend aussi du temps. Comment arrivez-vous à combiner votre vie professionnelle et votre vie personnelle?
Je pense que c'est comme dans n'importe quelle autre profession. Il est vrai que chez les militaires, il y a des imprévus, mais nous sommes nombreux, donc il y a toujours quelqu'un qui pourra réagir. Les grands événements importants sont planifiés, je sais donc 1 an à l'avance quand je participerai à tel exercice et j'organise mon temps en conséquence. Si je dois partir 3 semaines en mai en exercice, je ne vais pas planifier mes vacances à ce moment-là. Je planifie donc mes vacances et mon temps libre en fonction de mon calendrier de travail et j'essaie de caser ces activités de manière à être là quand il le faut.
A snažím se tam nacpat ty aktivity tak, abych tady byla, když je potřeba, a odjela, když se to nejvíc hodí.
Katerina Hlavsová, quelles sont vos ambitions au sein de l'armée de l'air et quelles sont les limites que vous voyez à votre métier sur le long terme?
Věková hranice, to je vlastně, dokud slouží zdraví.
Tant que vous êtes en bonne santé et que vous avez toute votre tête, je pense que vous pouvez l'exercer. Il y a toujours un moment où on sait, d'une manière ou d'une autre, qu'il est temps d'arrêter et de partir. Ou peut-être qu'il est possible aussi de faire quelque chose d'un peu différent dans ce domaine que de voler dans les airs. Mon objectif, je l'ai déjà atteint, puisque je voulais piloter des avions à réaction. Au final, l'objectif est toujours de bien faire son travail, même si j'espère que cela ne sera jamais nécessaire de l'exercer dans le monde réel.
Prostě dělat dobře svoji práci a doufám, že nebude nikdy potřeba v reálu.